Oui.
Bonjour.
Salut, salut.
Moi, je m'entends pas. Vous vous entendez? Ouais, non, si, c'est bon, je crois que c'est. On passe à la radio. Alors, de quoi bienvenue dans La Poulie, cette revue de presse hebdomadaire.
Un peu spécial aujourd'hui, avec un invité.
Oui, merci de m'avoir invité. Je voulais vous parler, moi, pour commencer, d'une très belle gravure de soutien à Serge, qui a été grièvement blessé à Sainte-Soline au printemps dernier, et accompagné d'un texte des camarades de Serge, voilà, qui dit ceci. Depuis 6 mois, un compagnon de route et accompagnateur en montagne de métier se trouve à l'hôpital. Ce n'est pas une mauvaise chute qu'il y a plongé, mais bien la réponse que l'État a donnée à celles et ceux qui avaient décidé de s'opposer à un projet d'accaparement de l'eau à Sainte-Soline le 25 mars dernier, pardon. Notre ami Serge y a été frappé de plein fouet par une grenade qui l'a atteint au niveau de la tête. Après avoir cheminé pendant plus d'un mois sur la ligne de crête qui le séparait de la mort, Serge est maintenant engagé dans une longue course d'arêtes au dénivelé tant positive que négative, parfois abrupte. Le sommet visé, récupérer ce qui n'est pas définitivement perdu. Heureusement, il n'est pas seul, et vous le savez bien, dans ces moments-là, des compagnons de cordée peuvent t'aider à ne pas sombrer. Pour faire face aux frais engendrés, l'auteur de BD Jean-Marc Rochette nous a offert un dessin que nous mettons à disposition sous forme d'affiche. Alors c'est une très belle affiche, très belle gravure, quoi, en sérigraphie, sur papier Canson. Papier Woodstock et exactement Bétula 260 grammes. Et donc voilà, je vous ai expliqué. Et il y a un très joli texte à côté qui dit ceci. Puisque oui, je vous ai pas parlé de l'essentiel. Sur cette affiche, il y a évidemment une montagne représentée, mais il y a également un ours brun. Un ours brun qui est une des passions de pas mal d'accompagnateurs de montagne et de pas mal de guides de montagne également, et autour des amis de Serge également. Voilà. Et donc ce petit texte, il dit ceci. Dans la tourmente, une rengaine obsédante sonne la revanche des damnés de la terre et de la terre damnée. Car de la fonte des glaciers que nous constatons chaque année, avec un peu plus d'effarement et la contestation des projets de méga-bassines, c'est bien de la même eau qu'il s'agit, et au final, le même capitalisme qui est en grande partie responsable, qui en est, pardon, en grande partie responsable. Voilà. Donc vous pouvez trouver cette affiche au local de La Poulie, c'est-à-dire à la radio primitive. Ce n'est pas le local de La
C'est pas le
Poulie.
local de La Poulie et ouais,
Non, non,
bah,
excusez. Et
d'accord.
donc voilà, il sera mis, il est à disposition là. Voilà.
D'accord. Eh ben, ça marche et on s'écoute un peu de musique et puis et ensuite.
Yeah.
Voilà, on s'est écouté Treadmill par non, de l'album Up to Here par FAXFO. Alors tout de suite, moi je vais vous parler de la France qui vote un texte à l'Europe, au niveau de l'Europe, pour surveiller les journalistes sans autorisation judiciaire. Voilà, donc c'est un article de Disclose que vous pouvez retrouver sur disclose.ngo. Voilà, alors c'est parti. Au cours d'une réunion organisée à Bruxelles le 12 décembre, la France, main dans la main avec la Hongrie, a réclamé des mesures toujours plus liberticides contre les journalistes dans le cadre des discussions sur l'European Media Freedom Act. Révèle de nouveaux documents obtenus par Disclose, Investigate Europe et Follow the Money. Le 12 décembre, les 27 États membres de l'Union européenne se sont donné rendez-vous à Bruxelles pour amender leur position sur la liberté des médias, l'European Media Freedom Act. Objectif, se mettre d'accord sur une version moins controversée de l'article 4 sur la protection des sources journalistiques. Le Conseil de l'UE militait jusqu'alors pour une version de l'article 4 autorisant les logiciels espions au nom de la sécurité nationale et dans le cadre d'enquêtes judiciaires portant sur une liste de 32 délits, comme l'ont révélé Disclose et ses partenaires. Des journalistes en contact avec des sources visées par des enquêtes pour corruption, contrefaçon, sabotage ou violation de la propriété privée pourront faire l'objet d'une surveillance policière. Sur ces deux points dénoncés dans une pétition signée par 75 rédactions, organisations, collectifs, syndicats et journalistes, la position du Conseil de l'UE n'a pas changé d'un iota, d'après un compte-rendu de la réunion. Au mieux, peut-on lire dans ce document que nous pouvons rendre public pour des raisons de confidentialité, une reformulation de l'exception de sécurité nationale pourra être négociée le vendredi 15 décembre, soit le jour des ultimes négociations entre le Conseil de l'UE et le Parlement et la Commission. Une nouvelle garantie très problématique pour la France. Si les 27 se sont montrés plutôt inflexibles sur la question de la sécurité nationale et des 32 délits, ils ont tout de même accepté d'ajouter une légère garantie à la protection des sources, et ce, en vue de trouver un accord avec le Parlement européen. C'est du moins ce qu'indique un autre document obtenu par Disclose et ses partenaires. Il s'agit du compromis établi avant la réunion et sur la base duquel ont porté les discussions. D'après cette note de 4 pages, les gouvernements se sont dit prêts à accepter qu'une autorité judiciaire ou une autorité indépendante et impartiale donne son accord avant toute mesure de surveillance, de perquisition ou de déploiement de logiciels espions contre les journalistes. Mais au cours des discussions, un pays s'est farouchement opposé à cet amendement, la France. Il serait très problématique d'ajouter cette nouvelle garantie, a estimé le représentant du gouvernement français à Bruxelles, d'après les propos rapportés dans le compte-rendu. Pour lui, l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire ou impartiale n'est acceptable uniquement dans le cas de l'utilisation de logiciels espions. Et ce dernier d'ajouter qu'en France, l'autorisation préalable n'est pas toujours requise dans le cas de crimes graves ou de mesures urgentes. Sans aller aussi loin que la France, la Hongrie a également émis des réserves, suggérant que l'autorisation préalable, et avant de déclencher les opérations de surveillance, ne soit pas réservée uniquement à une autorité judiciaire. Seule la France s'est exprimée en faveur de cette vision restrictive, note la présidence espagnole du Conseil, qui suggère donc de se ranger à l'avis du Parlement européen le jour du trilogue le 15 décembre. La France défend la même ligne que la Hongrie. Lors de la réunion du 12 décembre, un autre point défendu par le Parlement européen a été âprement débattu, l'obligation d'informer a posteriori les journalistes qui ont été ciblés par des mesures de surveillance dans le cadre des enquêtes judiciaires. Là-dessus, la France partage la même vision que le régime autoritaire de Viktor Orban en Hongrie. La lecture du compte-rendu révèle en effet que les autorités françaises ont réclamé que le principe d'information soit limité à l'usage des logiciels espions afin de préserver la confidentialité des procédures juridiques. De son côté, la Hongrie fait savoir qu'elle considère qu'il est difficile de fournir ces informations. L'opposition bruyante des autorités françaises et hongroises a contraint le Conseil de l'UE à mettre cette proposition de côté pour éventuellement la poser sur la table des négociations le 15 décembre. Donc voilà, on voit que notre brave gouvernement du pays des droits de l'homme vote contre le fait qu'il faille informer a posteriori, ça veut dire qu'on vous surveille sans rien vous dire, Et éventuellement, si c'est un logiciel espion, on informera les journalistes, en plus les journalistes, quoi. C'est même pas les criminels. Enfin bref. Donc voilà, la France toujours plus liberticide et voilà, hein, le macronisme. Abandonné. Voilà. Donc c'était Fuck Nazi Sympathy de par Polemix. Ou pas, ou Pig City. Alors à quoi qu'on passe ? Moi je vais vous lire un petit truc sur les nouvelles 15 heures d'activité pour le RSA. Voilà. Alors, c'est un article de Basta que vous pouvez trouver sur basta.media. Alors, à partir du 1er janvier, les 2 millions d'allocataires du RSA seront soumis à au moins 15 heures d'activité obligatoire par semaine. Sur le terrain, personne ne sait encore quelles seront ces activités, qui va les contrôler et comment. Le 1er janvier, Pôle emploi devient France Travail. Dans le même temps, les allocataires du RSA seront en principe soumis à 15 heures d'activité obligatoire par semaine pour pouvoir recevoir l'allocation de 607 € pour une personne seule. Conditionner le RSA à des heures d'activité était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022. La mesure a été définitivement adaptée à l'automne. Loi finalement votée mi-novembre, prévoit même d'élargir cette obligation à tous les chômeurs sous peine de sanction. Que seront exactement ces heures d'activité ? Qui contrôlera qu'elles sont réalisées ? Tous les quelques 2 millions d'allocataires du RSA y seront-ils soumis ? Qui pourra en être exempté ? Pour l'instant, personne sur le terrain ne semble vraiment savoir comment cette mesure sera mise en œuvre. 19 départements expérimentent déjà un dispositif similaire depuis l'an dernier. Mais aucune évaluation globale de cette expérience n'a été rendue publique. Alors que la mesure doit être généralisée à tout le monde, dans 2 semaines, le flou règne toujours. Une agente de la CAF nous dit n'avoir reçu aucune information sur les modalités de ces heures d'activité obligatoires. On a reçu beaucoup de communications sur France Travail. On nous a fait voter sur le nouveau logo. Le directeur de Pôle emploi a enregistré les vidéos pour nous vanter son successeur. Mais on n'a aucune communication sur comment on va faire concrètement avec les heures d'activité. Confie ainsi Daniel Mémin, agent Pôle emploi et porte-parole de la section solidaire en Occitanie. Lors d'une réunion de son service, début décembre, pendant une heure, on nous a présenté France Travail avec un diaporama de 15 pages. Pas une seule référence aux 15 heures d'activité, ajoute-t-il. On essaie de renseigner et de réunir les infos, mais c'est assez flou. Même nos contacts syndiqués à Pôle emploi et au département ne savent pas trop comment ça va se traduire en pratique et quelles seront les marges de manœuvre, confie Pierre qui anime à Lille une permanence d'entraide entre allocataires de la CAF et de Pôle emploi. Dans cette incertitude, l'aspect des 15 heures d'activité inquiète pas mal de personnes, nous y compris, note-t-il. Il y a aussi des gens qui pensent que ça va être complètement inapplicable. Sur le papier, la loi adoptée en novembre prévoit la mise en place d'un plan d'action pour les demandeurs d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau de d'intensité de l'accompagnement requis, auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins 15 heures. Cette durée des 15 heures, c'est le minimum, ajoute le texte de loi, mais elle peut être minorée sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé. Les personnes rencontrant des difficultés en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parents isolés, sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans, pourraient ainsi échapper à ces 15 heures obligatoires. En revanche, le texte ne prévoit pas de limite maximum des heures d'activité. En théorie, on pourrait donc demander à un allocataire du RSA 20, 30 heures, voire 40 heures d'activité hebdomadaire. Formation ou bénévolat. En plus, le texte de loi ne dit pas quel type d'activité il s'agira exactement. Pour avoir une idée, il faut consulter le rapport de préfiguration de France Travail, rendu public au printemps, parmi les activités possibles. Il mentionne suivre une formation, préparer un CV, passer des entretiens d'embauche, démarcher des entreprises, être accompagné pour la création d'entreprise ou effectuer une activité bénévole. Mais la loi ne donne aucune précision. C'est l'un des points dénoncés par les députés NUPES dans leur recours déposé contre la loi au Conseil constitutionnel. En ne précisant pas en quoi il consiste exactement l'activité à réaliser dans le cadre du contrat d'engagement, ni son périmètre, ni son contenu, le projet de loi ici contesté crée ainsi une obligation pour les demandeurs d'emploi qui n'est pas clairement définie, défend le recours. Les parlementaires de gauche contestent aussi l'absence de plafond maximum des heures d'activité. Le projet de loi, ici contesté, n'ayant pas prévu de plafond maximal d'heures hebdomadaires à l'activité d'activité à réaliser, des personnes inscrites à France Travail accompagnées dans le cadre d'un contrat d'engagement pourraient avoir à réaliser un nombre élevé d'heures proche du régime du droit commun d'un salarié à temps plein. Le risque d'un contrôle déshumanisé. L'analyse syndicale qu'on porte sur ces heures d'activité, c'est que cela ne peut pas fonctionner d'un point de vue du service rendu aux usagers, abonde Daniel Mémin, de Sud. Ce ne sera pas réalisable de contrôler des millions de personnes sur les 15 heures d'activité. Donc ça va forcément être un système déshumanisé, automatisé, comme cela existe aujourd'hui pour les absences à des rendez-vous, pour lesquels le système déclenche automatiquement une procédure de sanction sans intervention humaine. Pour les 15 heures d'activité, on pense que le système va être construit sur un contrôle a priori. Ce sont les personnes qui n'auront pas su ou ne pourront pas techniquement remplir leur journal de recherche d'emploi qui seront les victimes des sanctions et des suspensions. Le système va renforcer la déshumanisation de la relation. À Mulhouse, dans les bureaux de l'association Maison de la Citoyenneté Mondiale, membre du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, qui vient en aide à des allocataires du RSA, Isabelle Maurer, elle-même allocataire, refuse de rentrer dans ce nouveau dispositif. Elle est pourtant déjà très active, comme bénévole, depuis des années. « Je suis bénévole depuis 1988 et j'ai pas attendu un député ou un sénateur pour savoir que toucher le RSA, il y a des obligations, dit-elle. Mais pour faire du bénévolat, il faut encore avoir des moyens de locomotion et une santé qui leur permet. Elle se demande aussi qui sera habilité à dire ce qui rentre dans les heures d'activité et si au sein de son association, nous serons habilités à tamponner les attestations des allocataires. Activité ou travail. Dans son association, aucune info n'a circulé. Le directeur territorial de Pôle emploi nous dit qu'il contrôlerait en fonction de la situation de chacun, mais nous craignons que ce soit basculé, explique Serge Bertelli, actif au sein de l'association mulhousienne. Si pour ces heures d'activité, il s'agit d'apprendre à rédiger un CV, c'est vrai qu'il y a des besoins pour les gens les plus éloignés de l'emploi, constate le militant. Mais il rejette la perspective d'obliger les allocataires à faire du bénévolat. C'est une activité libre. Le bénévolat obligatoire, c'est un non-sens, dénonce Serge Bertelli. Si le bénévolat est obligatoire, ça devient un travail. Alors il faut un salaire, des cotisations sociales, souligne Isabelle Morère. Si l'objectif du projet est de vouloir aider les gens, c'est bien. Mais avec ce dispositif, on va tuer le SMIC, critique-t-elle. J'incite plutôt les gens à réclamer un salaire avec une feuille de paie et des charges sociales. Comme la bénévole, les allocataires du RSA ne cotisent pas. Ils et elles ne cotiseront pas plus avec 15 heures ou plus d'activités obligatoires. Voilà, donc c'est un article de Rachel Knabel et Emma Bougerolle pour Basta, que vous trouvez sur basta.media. Et maintenant, un petit, une petite musique de Noël. On se quitte en musique, ouais, et c'est encore un peu tôt pour se quitter en musique, mais ouais, allez.
J'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que je croyais plus grand, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais, très heureux pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël, et tout a continué, mais tout a continué, oui tout a continué, non, non, rien n'a changé. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier, mais j'ai lu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, les fusils des canons, j'ai pleuré, qui pourra m'expliquer que je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps, moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là, ne me regarde pas, et pourtant, je chante, dans c'est l'histoire d'un soleil que je croyais plus grand, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais, très heureux pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël, et tout a continué, mais tout a continué, oui tout a continué, non, non, rien n'a changé.
Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine pour une spéciale Noël, le 25 décembre.
radio libre et associative.